Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Déjà plus de 7000 feux depuis le début de la saison dans le sud. Les incendies se propagent, attisés par une canicule historique comme à Canet en Roussillon, où 3000 personnes ont été évacuées. Le feu est désormais fixé ce matin. Criminalité organisée ou ingérence étrangère, deux pistes privilégiées à Monaco après l'explosion qui a fait 3 blessés. On en sait plus ce matin sur le profil du suspect, ou plutôt de la suspecte, puisqu'il s'agit d'une femme. Et la déception ce matin des supporters algériens, éliminés de la Coupe du Monde, battue 2-0 à l'instant par la Suisse qui rejoint l'Espagne et le Portugal, qualifiés cette nuit en 8e de finale.
Une bonne nouvelle ce matin à Canet en Roussillon.
Après avoir parcouru plusieurs dizaines d'hectares, le feu est désormais fixé dans cette commune des Pyrénées-Orientales à quelques kilomètres de Perpignan. Plus de 280 bungalows et mobilhomes ont brûlé dans l'incendie qui a fait 6 blessés. 3000 personnes, je vous le disais, ont été évacuées, parmi eux des campeurs, des vacanciers comme Emmanuel. Elle a tout perdu, elle a été rencontrée ce matin par Philippine Boulet.
On a un peu dormi, quoi. C'est pas une bonne nuit, mais on s'est reposé. Nous, on est en caravane et on nous a dit qu'il ne restait plus rien sur le camping. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien. On a nos papiers, notre voiture et voilà, et nos habits d'hier. Mais on a des assurances et puis après, derrière, la vie a continué, quoi, en fait.
Et les pompiers restent mobilisés ce matin sur place. Ils sont plus de 2000 dans le sud à lutter contre les flammes. Des feux en grande majorité maîtrisés ce matin dans les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore dans le Gard, à l'inverse de l'Aude, où le feu a repris, attisé par les vents violents. Laurent Nunez est attendu sur place dans la journée. Des incendies prématurés et violents, favorisés par les conditions climatiques, la chaleur notamment, c'est ce que dit Sébastien Lecornu à Marseille. Le Premier ministre évoque 7000 départs de feu depuis le début de la saison, avec déjà 8700 hectares partis en fumée. Sarah Bélien, comment expliquer cette précocité alors que nous ne sommes que début juillet?
Eh bien, ces feux précoces sont directement liés aux deux épisodes de canicule qui ont débuté avant l'été. C'est d'ailleurs du jamais vu en France. Conséquence de ces fortes chaleurs, l'eau s'évapore plus vite, ce qui assèche les sols et la végétation. Des conditions inédites constatées par Yves Tremblay, directeur de recherche en hydrologie à l'IRD, et qui risquent de s'aggraver.
À ma connaissance, je n'ai pas vu précédemment de tels contrastes, avec quasiment un record d'humidité des sols atteint en février-mars. Et là, on est en train d'aller vers le record d'humidité des sols, mais en termes très très bas. Donc là, il y aura des effets cumulatifs avec une végétation déjà très impactée. Si en plus on a des épisodes de vent là-dessus, on s'attend effectivement à un risque extraordinaire de feux de forêt. On peut s'attendre malheureusement à des feux d'ampleur.
Pour rappel, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine, 30% sont volontaires et dus à des actes de malveillance.
De fortes chaleurs désormais redoutées dans les hôpitaux en attente de 30 000 climatiseurs. 6 000 sont en cours de livraison, précise le Premier ministre, en marge d'un nouveau conseil interministériel de crise au sujet de la canicule passée et de celle à venir. Des climatiseurs objets de toutes les convoitises. Et à l'origine de ces images que vous avez peut-être vues hier, de longues files d'attente, des bousculettes, parfois même des bagarres dans les magasins Lidl qui proposaient des appareils à prix cassé, climat de tension déploré par la direction du groupe et les syndicats, de dénoncer, Léonie Guilbeault, un manque d'anticipation.
Oui, d'autant que l'enseigne avait communiqué en amont sur cette offre et au sein des points de vente, une telle cohue était redoutée, explique Mohamed Silla, délégué du syndicat UNSA Lidl.
On a des directeurs de supermarchés qui nous ont contactés parce que les clients venaient déjà pour se renseigner, pour voir est-ce qu'ils pouvaient déjà accéder aux climatiseurs ou aux ventilateurs. Donc la demande était déjà là.
Une demande importante et des stocks limités.
Il n'y avait que 200 000 exemplaires sur 1600 supermarchés. Donc on savait pertinemment qu'on allait se retrouver avec une clientèle bien déchaînée.
Certains salariés ont d'ailleurs dû faire face à des situations parfois tendues, comme l'explique Sabine Pruvot, déléguée centrale Force Ouvrière.
Les salariés, ils ont subi les agressions des clients, quoi, en fait. Hein. Certains ont été choqués, hein, psychologiquement.
Et renforcer la sécurité en magasin n'aurait servi à rien, selon elle.
Le vigile, c'est pas non plus Chuck Norris, hein, il va pas accoucher 20 personnes. Donc c'est pour ça, même en mettant 10, 20, 30 vigiles, est-ce que ça aurait suffi pour calmer tout ça? Je sais pas.
Les syndicats demandent qu'à l'avenir, de telles offres soit proposé sur le site internet plutôt qu'en magasin.
Avec ou sans climatiseur, c'est sous cette chaleur que débutent les grandes vacances d'été. La cloche va sonner ce soir pour 12 millions d'élèves avec du monde sur la route. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs sur le quart nord-est. C'est orange partout ailleurs et dans le sens des retours à l'ouest.
7h05 sur RMC, trois nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel.
Deux pour viol, une pour agression sexuelle sur mineur. Information révélée par nos confrères de Mediapart, confirmée par les avocats des plaignantes. Le chanteur lui est déjà mis en examen dans quatre affaires en France et en Belgique. À Monaco, on n'en sait plus sur le profil du suspect qui a pris la fuite après avoir déposé un colis piégé faisant trois blessés. Il s'agit d'une femme qui aurait, Maxime Cliérusa, été localisée par les autorités monégasques.
Oui, elle ne se trouverait ni à Monaco ni en France, mais dans un autre pays européen. Peu avant 21h ce lundi, place des Moulins à Monaco, cette femme repère ses cibles avant de les suivre. L'oligarque Vadim Ermolaev, son fils de 13 ans, ainsi que sa compagne Anna Nassobina, la suspecte les devance, se place 10 mètres devant eux avant de déposer le sac piégé au pied de l'immeuble où la famille réside. Elle quitte ensuite les lieux avant de s'assurer au loin que la famille pénètre dans le bâtiment. C'est à ce moment-là qu'elle déclenche l'engin explosif à l'aide de ce qui ressemble à une télécommande, puis prend la fuite. Les enquêteurs monégasques privilégient désormais deux pistes, celle de l'ingérence étrangère ou bien celle de la criminalité organisée.
Et la Coupe du Monde, et pas de miracle pour l'Algérie.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Battu et donc éliminé il y a quelques minutes par la Suisse, 2-0. La déception est immense pour les supporters algériens qui se sont levés tôt pour suivre ce match. Ils étaient 150 réunis dans un restaurant du 18e arrondissement de Paris. David Elias était à leur côté. Vous êtes toujours sur place en direct pour RMC. David, aux côtés de supporters dépités ce matin.
Tout à fait, l'Algérie ne retrouvera pas les huitièmes de finale de la Coupe du Monde dominée de la tête et des épaules par l'équipe suisse ce matin. Je suis avec Adel, supporter algérien. Il a pesté après les siens pendant l'intégralité de la rencontre. Adel, ce matin, la colère plus que la déception.
Très 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 en colère contre le coach et ses choix. Ben Taleb, Mendy, c'est des joueurs qui doivent plus être dans cette équipe nationale.
Le responsable tout trouvé pour vous aujourd'hui, c'est Vladimir Petkovic, le sélectionneur de cette équipe algérienne.
Il est en grande partie responsable, ouais, c'est lui.
Pourquoi? Comment vous l'expliquez ça?
À chaque match, il y a des compositions différentes, des joueurs différents. Il n'a jamais su trouver l'équilibre dans cette équipe. Ça fait 2 ans qu'il est là, il n'y a eu aucun travail, selon moi, bien sûr. Des mauvais joueurs qui sont répétés, qui sont remis encore et encore, je ne comprends pas. On a des bons joueurs, il ne les appelle pas, il les met sur le banc. Je pense à Kebal qui n'est même pas sélectionné, je ne comprends pas.
Adel, il y avait énormément d'équipes aussi africaines qualifiées pour ces 16e de finale. Il en reste de moins en moins. Comment on explique qu'elle marque le pas face aux sélections européennes?
J'ai l'impression que dans les dernières minutes, pour les autres équipes africaines, c'était difficile. On arrive à jouer, mais dans la fin, c'est plus compliqué par rapport aux Européens. Je pense qu'on a moins l'habitude de ces compétitions et de cette intensité.
Merci beaucoup, Adel. Et après l'élimination de l'Algérie ce matin, il ne reste plus que 4 équipes africaines en lice pour l'instant. Le Maroc est déjà qualifié pour les 8e de finale. Le Cap Vert, l'Égypte et le Ghana peuvent rejoindre les Lions de l'Atlas au tour suivant.
Et on les retrouvera cette nuit, ces équipes-là, l'Australie face à l'Égypte, l'Argentine face au Cap-Vert, la Colombie face au Ghana. Cette nuit, le Portugal s'est qualifié, victoire 2-1 après un match étouffant face à la Croatie. C'est Gonzalo Ramos qui, dans le temps additionnel, envoie les Portugais en 8e de finale. Ils affronteront l'Espagne en promenade face à l'Autriche. La Roja sera sur 3-0.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Tiens, un mot pour vous dire qu'il ne vous reste plus qu'une semaine pour vous inscrire pour la 17e édition des Trophées PME RMC BFM 2026. Les Trophées PME, vous le savez, c'est le premier concours des PME de France. Honnêtement, c'est une très grande fierté de la part de BFM TV de vous soutenir, vous qui êtes entrepreneur, vous qui créez BFM RMC, soutient les Trophées PME depuis 17 ans maintenant. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une petite ou une moyenne entreprise, eh bien vous pouvez donc participer et gagner jusqu'à 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Il y a eu des entreprises qui ont vraiment décollé grâce à nous, grâce au trophée PME RMC, des entreprises comme Too Good To Go, comme Blablacar, comme C'est Qui le Patron. Toutes celles-là, elles ont trouvé soutien dans ce trophée PME RMC. Alors comme eux, comme Too Good To Go, comme Blablacar, vous vous inscrivez sur trophée-pme-rmc-bfm.fr, trophée-pme-rmc-bfm.fr. La date limite, c'est le 10 juillet et vraiment, ça vaut la peine. Il est 7h09, on part tout de suite au 32-16. Il y a Brigitte qui nous appelle de Troyes. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour. Je vous appelle de Truyes, en Indre-et-Loire.
Ah, vous êtes oui. À Truyes, rien à voir, oui. En Indre-et-Loire. Brigitte, je voulais vous donner la parole parce que vous avez appelé pour réagir à cette idée de l'assurance maladie qui dit qu'il faudrait interdire la cigarette à tous ceux qui seraient nés depuis 2009. C'est ce que fait l'Angleterre, hein, la Grande-Bretagne. Bretagne, elle veut créer des générations sans tabac. Sauf que vous, Brigitte, j'ai l'impression que vous êtes souvent au contact de jeunes. Vous dites le problème, c'est plus la cigarette, c'est les puffs.
Tout à fait. J'ai la chance d'encadrer des jeunes dans le programme Erasmus avec une association qui s'appelle Europe Berry en Touraine.
Ouais.
On part à l'étranger, on part en bus. Il y a quelques années, les jeunes, il y en avait un ou deux qui étaient avec leurs cigarettes. Et là, en avril, on est parti en Italie. Et 80% des jeunes, dès que le bus est arrêté, ils étaient avec leurs cigarettes électroniques. Alors effectivement, interdire la vente de cigarettes pour nos jeunes, on se trompe de combat. Ils ont déjà trouvé, disons,
une alternative
moins chère. Et puis, c'est un fléau, quoi.
Oui, donc c'est une nouvelle mode. C'est-à-dire qu'au fond, pour vous, la cigarette, c'est déjà plus le cas ou beaucoup moins le cas, mais s'attaquer au puff, quoi.
Tout à fait. C'est vraiment un fléau. Parce que là, dans les jeunes qu'on est partis en Italie, vraiment, ceux qui avaient la cigarette, ils étaient un ou deux. Mais tous les autres, disons 80%, peut-être même plus, ils étaient avec leur cigarette électronique.
Vous réussissiez alors à leur faire attendre au minimum quand même l'arrêt du bus, le fait de sortir?
Bien sûr, oui, quand même. Mais on voyait vraiment accro. Dès qu'ils étaient sortis du bus, c'était la cigarette électronique.
Vous avez raison d'alerter.
De malbouffe aussi.
Oui, ça j'imagine, mais bon, ça c'est un autre dossier. Brigitte, c'est super votre association, honnêtement. C'est top aussi d'accompagner ces jeunes dans ces programmes. Merci d'être passée par le 32-16. Comme Brigitte, vous n'hésitez pas, vous le savez. Venez témoigner, nous alerter, réagir. Le 32-16 vous est ouvert. 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
7000 départs de feu et près de 9000 hectares brûlés depuis le début de la saison. Le sud-est est en état d'alerte incendie. Éric Flores est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes à la tête des pompiers de l'Hérault. Vous êtes vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Les événements climatiques aggravent la situation. Voilà votre parti pris. Vous nous direz qu'est-ce qu'il se passe sur place. On est en direct avec vous dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé Canal 23. Les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Gard. Il y a plusieurs centaines d'hectares qui sont déjà partis en fumée et au moins 3000 personnes évacuées autour de Canet-en-Roussillon. Bonjour Éric Flores.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous dirigez le SDIS de l'Hérault, les pompiers de l'Hérault, et vous êtes aussi vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. En fait, ça brûle un peu partout, hein, faut être honnête, mais le pire, c'est dans les Pyrénées-Orientales. La canicule a aggravé la situation, voilà ce que vous nous dites ce matin. Mais d'abord, au moment où l'on se parle, on en est où? On sait qu'il y a toujours 3000 personnes évacuées, c'est ça?
Alors, je suis désolé, j'ai pas trop d'informations sur le feu des Pyrénées-Orientales. Le sujet, c'est que globalement, nos feux, on arrive à les calmer, ils se calment naturellement un peu la nuit. Tout le sujet que l'on a maintenant, c'est comment avec le renouveau de la chaleur, avec la journée, et on a encore une journée avec du vent, comment on va pouvoir arriver à tenir tous ces incendies qui se sont déclarés depuis 2 jours.
Vous redoutez la journée qui vient ?
On redoute toutes les journées en ce moment parce que au-delà des incendies qui se sont déclarés, comme je vous l'ai dit, qu'il faut arriver à tenir avec le dessèchement des végétaux, avec le vent qui reprend rapidement, on a tous les jours un nombre nouveau de départs de feu avec une activité humaine qui est assez surprenante pour la période. Enfin, dans mon département, hier, on a eu plus de 17 départs de feu dans l'après-midi. Ça veut dire qu'il y a de l'inconscience, il y a une population qui n'a pas compris qu'en ce moment, il faut faire très attention. On a des niveaux de dessèchement des végétaux qui sont en dessous de 20%. On est sur de la paille, sur des allumettes, et n'importe quelle activité, quelquefois totalement anodine, peut déclarer un incendie.
17 départs de feu, et vous dites que finalement, à chaque fois, ça vient quoi? D'une imprudence, d'une insouciance?
On est dans une période où les gens continuent à travailler dans les forêts. On a travaillé avec nos chambres d'agriculture justement pour alerter un peu tout le monde pour qu'ils fassent leurs travaux la nuit ou tôt le matin. On comprend qu'il y a des activités comme la moisson ou autre qui doit être réalisée, mais à côté de ça, il y a des gens qui encore ne font pas attention. Hier, on a eu facilement sur les 17, au moins 4 qui étaient liés à des jets de cigarettes au bord des routes, et ça, c'est encore une fois inadmissible.
4 hier qui étaient dus à des jets de cigarettes.
Oui, sur les 17.
Dans le contexte actuel, on a encore des gens qui jettent leurs mégots de cigarettes, comme ça.
Oui, on a eu un départ de feu en plein, quasiment à côté de Béziers, sur un rond-point, et donc on sait que c'est naturellement des cigarettes. Voilà. Donc quasiment tous nos départs de feu au bord des routes, ce sont des jets encore de cigarettes. l'activité, comme je vous disais, les agriculteurs globalement sont responsables. Ils doivent faire, mais il y a toujours quelquefois des petits déclenchements.
Vous avez l'impression que pour le coup, il y en a certains qui ont vraiment pris leurs responsabilités, qui font attention désormais, qui adaptent les horaires des moissons notamment. Mais vous dites cette imprudence, c'est quoi? Donc c'est des cigarettes, c'est encore du barbecue, c'est des choses qui vraiment peuvent complètement dégénérer. Il faut le
vous,
dire.
Vous prenez quelque chose de... Oui, vous prenez quelque chose de tout bête, un pot d'échappement avec l'herbe que l'on a actuellement. Si vous roulez dans un champ, ben le pot d'échappement avec les pots catalytiques, ça vous mettra un incendie sans le savoir. Donc oui, il y a des tas d'activités qu'on se rend pas compte qui peuvent générer des incendies. Et, enfin, moi, j'alerte vraiment la population que avec les circonstances, les gros incendies que l'on a, que l'on doit continuer à tenir, que ça soit ceux de l'Aude, des Comtitiers, des Pyrénées-Orientales. La multiplication des départs, c'est notre, entre guillemets, grosse difficulté.
Dans l'année, justement, on se dit, si tôt dans l'été, si tôt dans la saison, avec des journées extrêmement chaudes, vous n'imaginiez pas que ça puisse commencer si tôt?
Alors, on l'avait anticipé, hein, ça fait quasiment un mois qu'il ne pleut plus dans nos régions. On avait, avec la sécheresse, la canicule qu'il y a eu, on suit le dessèchement de tous nos végétaux. On savait que ces deux journées qui arrivaient, depuis mercredi et mardi, on savait qu'on avait des journées à risque avec la tramontagne. On était globalement préparés. Néanmoins, ben, quelquefois, vous avez des départs de feu dans des zones où, ben, il n'y a pas grand monde et donc, on met du temps, hein, quelquefois, à intervenir. Et après, quand vous avez une multiplication des départs de feu, ben, il faut arriver à tous les tenir et quelquefois on en a un qui part plus rapidement que les autres.
Et réussir presque à se démultiplier. Merci beaucoup Éric Flores d'avoir fait le point avec nous ce matin. Vous êtes directeur donc du SDIS de l'Hérault, des pompiers de l'Hérault et vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il est 7h19 et c'est notre historien du matin qui rentre dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier. Donald Trump a dévoilé cette semaine son patrimoine. Le président américain est l'un des plus riches de l'histoire.
Alors oui, mais c'est loin d'être le seul milliardaire hein, puisque Kennedy avait un patrimoine $1 milliard et ça lui était déjà beaucoup reproché.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité à 8h30, ce sera Jean-François Copé. Ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Cette semaine, Donald Trump a publié sa déclaration de patrimoine. Et alors c'est stupéfiant, sa fortune a triplé depuis le début de son deuxième mandat.
Et oui, en moins de 2 ans, le patrimoine de Donald Trump est passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars. Cet argent, il l'a principalement tiré de crypto-monnaies dans lesquelles il a investi, ou d'ailleurs qu'il a lui-même créé. Et comme par hasard, Apolline, le président Trump a fait voter beaucoup de lois en faveur de ces monnaies numériques. Une confession des genres qui n'est pas passée inaperçue aux États-Unis.
Ça fait de lui le président le plus riche de l'histoire des États-Unis?
Oui, alors même si pour être honnête, il avait déjà amassé une grosse fortune avant d'être élu. Mais aux États-Unis, avoir des présidents riches, c'est plutôt la norme que l'exception. Et ça a commencé tout de suite. Le tout premier président américain, George Washington, était richissime. Quand il a été élu en 1789, il avait déjà un patrimoine équivalent à 500 millions de dollars d'aujourd'hui. Et l'origine de cet argent n'était pas reluisant, puisque Washington avait une plantation de centaines d'hectares, une plantation qui était exploitée par plus de 300 esclaves.
John Fitzgerald Kennedy, lui aussi immensément riche.
Oui, et d'ailleurs, après Donald Trump, c'est même celui qui avait le plus gros patrimoine, environ 1 milliard de dollars, une fortune qui lui venait de sa famille, mais là aussi, c'était pas forcément un cadeau. On lui a beaucoup reproché d'avoir autant d'argent, puisqu'on soupçonnait les Kennedy d'être lié à la mafia de Chicago.
Est-ce qu'il y a eu des présidents pauvres?
Alors il y en a eu et c'était loin d'être les plus mauvais. Hein. Un des plus grands présidents américains, en tout cas un des plus populaires, c'est Abraham Lincoln. Hein. Il a été élu en 1861. C'est à lui qu'on doit l'abolition de l'esclavage. Il était tellement pauvre qu'il était né dans une cabane. Il n'a jamais fait fortune. Sa carrière, il la devait intégralement à son talent. Comme quoi, c'est possible.
Il y a aussi les présidents qui ont fait fortune, mais alors après leur mandat.
C'est une autre spécialité. Et l'exemple typique, c'est Bill Clinton. Il venait lui aussi d'une famille assez pauvre de l'Arkansas. Avant de faire de la politique, il était prof de fac, donc un métier pas si bien payé. Quand il est élu en 1993, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas riche. Mais une fois qu'il a quitté la présidence, alors là, il a amassé une fortune grâce à des conférences. Son patrimoine actuel est estimé à 55 millions de dollars.
Ah oui, donc ça y est, il s'est reconstitué. Mieux. Est-ce que les présidents américains sont bien payés pendant le mandat?
Alors oui, plutôt évidemment. Leur salaire annuel, c'est 400 000 dollars bruts, soit environ le double du président français. Mais alors attention, il y a une grosse différence. Les présidents américains vivent dans un appartement de fonction à la Maison Blanche, okay. Ils ont du personnel, évidemment, mais ils doivent payer toutes leurs dépenses personnelles. Donc ils payent leur nourriture, leur dentifrice et même leur papier toilette.
Eh bien, merci Arthur Chevalier. Arthur, l'historien d'Apolline Matin. Votre chronique, Arthur, elle est à retrouver dès maintenant en podcast. Et attention, parce que on nous signale des petites difficultés parfois de podcast. Eh bien, il n'y a aucune difficulté si vous allez chercher le podcast sur l'application RMC. Tout est sur l'application RMC. Il est 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour.
Bonjour Arnaud. Tout à l'heure sur RMC, BFM TV, mon invité dans le face-à-face, ce sera le maire Les Républicains de Meaux, Jean-François Copé.
Avoir un bon Copé, et oui. Une interview de Jean-François Copé, c'est le signe d'une belle journée qui démarre. C'est le début d'un week-end sponsorisé par la dopamine. C'est chouette. Alors, Jean-François Copé, pourquoi qu'il vient? Eh bien, il plaide pour un candidat unique à droite. Mais il ne sait pas encore s'il ralliera Édouard Philippe ou non. Laurent Wauquiez, lui, a déclaré son soutien à Édouard Philippe, le pauvre, au détriment de Bruno Retailleau. C'est les feux de l'amour, là, en fait. C'est la droite et les garçons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jean-François retrouve Laurent qui vient de larguer Bruno pour Édouard.
Non, mais enfin, Laurent, écoute, non, mais Édouard, il est bien gentil, mais il est pas assez de droite, voilà.
Je sais pas, il me plaît bien.
Non mais enfin, écoute, mais tu dis ça parce que tu n'aimes plus Bruno, voilà, je comprends, voilà, votre histoire s'est fracassée, voilà. 20 ans à vous fréquenter, la routine s'installe, les horloges ont remplacé les papillons. Tu ne ressens plus rien pour Bruno. Si, j'ai envie de lui casser la gueule. Et Edouard, je le trouve super sexy avec sa crinière.
Oui, c'est une série, hein, y a des accessoires.
Alors, Jean-François Copé plaide pour un candidat de droite décomplexé. Mais il y a des candidats de droite complexés, ça existe ça? Vous en avez déjà vu, vous? Faudra en recevoir un dans le face-à-face. Patrice Complexé, bonjour. Merci d'être mon invité.
Merci, parce que je mérite pas trop d'être là, en fait.
Alors, l'immigration.
Les Arabes nous volent nos emplois.
Comment? J'ai pas entendu. Il faut créer de l'emploi. J'ai vraiment retourné le problème dans tous les sens. Je vois pas qui est complexé à droite. Tiens, Laurent Wauquiez, il est décontracté, lui. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est accusé d'avoir abusé au niveau de ses notes de frais. Le tribunal de Lyon l'a condamné à les publier. Alors, il a tout imprimé. Il a fait 27 kilos de documents. Il y a 7000 pages à examiner. C'est vraiment le signe d'un gars qui s'en tartine les roustons avec une patte d'alligator femelle, quoi. Il est en détente. Et ben, vous avez vu, il y a 500 bénévoles qui ont décidé d'examiner les documents. Personne aime faire sa compta. Eux, ils vont faire celle de Laurent Wauquiez, oui, gratos.
Il faut vraiment être motivé.
Je me disais, 7000 pages de notes de frais, ça a l'air beaucoup, mais pour un politique de droite, ça va, c'est pas énorme, quoi. Balkany, il fait ça tous les matins. Hein. Enfin, 7000 pages de notes, il te les claque en un dimanche au marché. Bonjour, monsieur Chalet. Alors, vous allez me mettre là une demi-douzaine de voitures de fonction. Après, je vais prendre un appartement de 400 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel. Oui, s'il y en a un peu plus, vous me le mettez quand même. On monte à 500. Allez, on s'en fout. Allez, Jean-François Copé, c'est 8h30. Tout à l'heure.
Merci Arnaud. Arnaud, qu'on retrouve à 8h15. Il est 7h27. Dans un instant, on va parler de foot et de politique. A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le début des grandes vacances ce soir, premier week-end de départ avec des prix du carburant toujours très élevés. Alors les Français s'adaptent, vous l'entendrez. Des feux très violents dans plusieurs départements du sud de la France. 3000 personnes ont dû être évacuées de chez elles et de certains campings touchés par les flammes. Et puis c'est bientôt le jour J pour Paul Sexas, le prodige du cyclisme français, prend le départ du Tour de France demain à Barcelone.
Ça y est, c'est le dernier réveil qui sonne, le dernier jour d'école.
Et donc le début des vacances ce soir avec un week-end qui s'annonce déjà bien chargé sur la route. C'est rouge dans le sens des départs aujourd'hui pour le quart nord-est. Demain, ce sera le cas pour le nord-ouest. Et en plus de la patience dans les bouchons, il va falloir en avoir aussi en station-service car les prix du carburant baissent très peu, voire pas du tout, ce qui pousse même certains automobilistes à adapter leurs vacances. Alexandre Thibault.
Après avoir regonflé ses pneus, Gérard fait le plein. Et en voyant les prix du carburant...
Les prix ne baissent pas. J'étais surpris qu'il était encore de 95 à 1,90. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein?
Ce matin, direction Belfort pour les vacances. Et il le sait, si le prix du baril redescend, à la pompe, il va encore falloir se montrer patient.
J'espère que d'ici fin juillet, ça sera bien. Qu'on revienne dans les 1,70, 1,65. comme c'était avant.
Mais en attendant, Odile, les valises déjà dans le coffre, a été obligée de s'adapter.
Je devais partir dans le Midi cette année. Je pars en Normandie.
Vous partez plus près ?
Plus près, oui, oui. Je dois, comme tout le monde, subir.
Sur la pompe d'à côté, pour David, pistolet en main, pas question de toucher à son été.
Les vacances, bon, bah, ça reste les vacances.
Mais pour pouvoir se faire plaisir, il a économisé.
Ouais, mai-juin, on est resté très sobre d'un point de vue consommation de carburant. On est moins parti en week-end, par exemple. Pour des raisons purement de prix du gaz.
Voilà. Certains automobilistes prévoient aussi de covoiturer pour diviser les frais. D'autres étudient le meilleur itinéraire pour rentabiliser le trajet.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, attendu dans l'Aude aujourd'hui, où un incendie a ravagé 900 hectares à Pouzol-Minervois. Celui qui dure depuis deux jours dans les Pyrénées-Orientales voisines est désormais fixé. 6 blessés à Canet-en-Roussillon, près de 300 bungalows partis en flammes. 3000 personnes ont dû être évacuées. Et dans le Gard, à Millau, l'incendie est toujours en cours dans un établissement de stockage de déchets. Au moins 130 hectares parcourus par les flammes sous les yeux de Sofiane, un habitant.
J'ai vu le feu, mon père m'a appelé, on m'a dit qu'il y a le feu dans notre ferme. Donc je suis sorti du travail, j'ai intervenu direct, j'ai démarré la pompe à eau et j'ai essayé d'éteindre le feu, j'ai réussi. Donc voilà, je suis content de moi. C'était extrêmement fort, il y avait beaucoup de fumée. Il y a un véhicule qui a brûlé sur le champ. Ça fait plus de 25 ans que j'habite ici et c'est la première fois de ma vie que je vois autant de feux et de pompiers et de canadaires qu'à Millau.
Des feux particulièrement précoces alors que la France a connu une canicule historique. On doit d'ailleurs connaître ce matin le nombre de personnes qui en sont mortes, bilan du ministère de la Santé, alors qu'une nouvelle vague de chaleur se profile dès la semaine prochaine et que les hôpitaux attendent toujours les 30 000 climatiseurs promis par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre annonçait hier que 6 000 étaient en cours de livraison, mais il va falloir encore un peu de patience, Rachel Sadodine.
Chaque hôpital gère lui-même ses commandes et n'a aucune obligation de passer par les centrales d'achat de l'État, précision du Premier ministre. À Cherbourg, les 20 climatiseurs mobiles commandés par le centre hospitalier sont attendus dans le courant de la semaine prochaine, au plus tard jeudi. L'hôpital de Bastia a lui aussi demandé une vingtaine de climatiseurs. Pour le moment, la direction ignore quand ils seront livrés. Même situation à Lens, où 150 appareils ont été commandés, ainsi qu'à Vierzon, le directeur de l'hôpital Didier Guidoni.
On a un besoin estimé au global à 195 climatiseurs et sans ventilateur. On attend le retour désormais d'informations.
D'autres hôpitaux n'ont eux pas attendu l'annonce de Sébastien Lecornu. À Montargis, 50 climatiseurs ont été commandés avant le début de la canicule du mois de juin. Ils doivent être livrés aujourd'hui. Grâce à un achat anticipé dès le début du mois de mai, l'hôpital de Montauban a reçu et installé ses 20 nouveaux climatiseurs avant même le début de la canicule d'il y a 10 jours. La direction espère maintenant bénéficier d'un remboursement dans le cadre de l'enveloppe de 100 millions d'euros débloquée par le gouvernement.
Patrick Bruel, visé par 3 nouvelles plaintes, 2 pour viol, 1 pour agression sexuelle sur mineur. Le chanteur qui est déjà mis en examen pour d'autres cas de viol et d'agression sexuelle, ses avocats annoncent qu'ils ne répondront à ces accusations que dans le cadre de la justice, si elle est saisie de ces faits. En Iran, le corps de l'ancien guide suprême Ali Khamenei est arrivé dans un complexe religieux de la capitale Téhéran. C'est le jour de ses funérailles, un funérailles d'une ampleur inédite. Ali Khamenei était tué dans le 28 février dans une frappe américaine au premier jour de la guerre. Il est 7h35 sur RMC et le mondial s'arrête là pour les Algériens.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Ils n'ont rien pu faire contre la Suisse qui l'emporte 2-0 et file en huitième de finale pour rejoindre notamment l'Espagne, victorieuse de l'Autriche 3-0, et le Portugal qui s'est imposé 2-1 contre la Croatie. Prochain match du mondial, c'est ce soir à 20h, Australie-Égypte. Heureusement que les matchs se passent le soir ou la nuit, car à partir de demain, il y aura aussi le Tour de France, départ de Barcelone avec un certain Paul Sexas. Le Français de 19 ans de l'équipe Décathlon CMA-CGN va participer à son premier tour. Quelles sont ses ambitions, Léna Marjac?
Déjà, de réaliser un rêve d'enfant. Le Tour de France reste une course spéciale aux yeux de Paul Sexas.
J'ai suivi le Tour chaque année. Des super moments que j'ai passés devant la télé, en famille.
Maintenant fini le Tour devant la télé, place aux choses sérieuses. Remis de sa chute subie il y a 15 jours au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Sexas vient avec un objectif.
What you want is to win.
Une partie de lui envie de s'imposer. C'est la réponse donnée à une question d'un confrère espagnol qui lui l'a même comparé au mental de gagnant du footballeur barcelonais Lamine Yamal. Et c'est vrai, à 19 ans, Paul Sexas n'a peur de rien, même à la veille du départ d'une première grande boucle.
Je pense ça comme n'importe quelle course, forcément avec le sérieux et d'attention.
Alors sur sera-t-il capable de jouer le classement général, de porter le maillot jaune, de rivaliser avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard? Tant de questions que se pose Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme.
Sincèrement, je suis incapable de vous dire ce qu'il est capable de faire sur ce Tour de France. C'est pour moi le seul tour de toute sa carrière où il n'a pas de pression et personne qui en voudra si ça se passe pas bien.
Paul Sexas est le plus jeune coureur à prendre le départ du Tour de France depuis 1937 et le Français Adrien Cento.
Le Tour de France que vous vivrez évidemment sur RMC.
C'était le journal de Clara Gabillet. Tiens, il y a
le Quintet.
Le Quintet, j'allais le sucrer le Quintet. Ouais, Cabourg.
Cabourg ce soir, départ 20h15. Et la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 3, Nelson Greenwood. L'outsider, c'est le numéro 6, Max Ocagne, le 3 et le 6.
Ouf, c'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h37, on va partir dans le Cantal, retrouver Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Comment ça va? Bonjour. Sandrine, vous êtes artisan à Saint-Flour et vous réagissiez parce que vous avez entendu le pompier là à l'instant qui disait attention, la plupart de ces feux qui sont en train de prendre un peu partout dans le sud-est, ils sont dus notamment à des jets de cigarettes. Vous l'avez constaté vous-même?
Voilà, même si nous on n'est pas dans la même situation critique que dans l'Aude, en fait, c'est vrai que chez nous, en début de semaine, on suivait encore une voiture sur les petites routes du Cantal, et le monsieur devant nous fumait, et on l'a vu arriver gros comme une maison. À la fin, je jette mon mégot par la fenêtre.
Ouais.
Ah ouais. Mais nous on a un appartement dans l'Aude. Et l'année dernière, après les gros incendies qu'il y a eu sur Narbonne, on en a vu également sur la route. Alors, conducteur et passager, jetaient tous les deux les mégots par la fenêtre. Donc,
c'est terrible. Il nous disait tout à l'heure, le pompier, que c'est vraiment un des motifs réguliers de départ de feu. C'est le mégot le long de la route.
Oui. Alors, faut pas le jeter dans la voiture, hein, parce que ça fait sale. Par contre, sur le bord de la route, les incendies, c'est pas grave. À croire que les gens, vraiment...
Donc, il faut préparer. Si jamais on décide de fumer au volant, on prépare une petite boîte en métal et on écrase sa cigarette dans la boîte en métal. À défaut d'avoir... On a eu quelques messages depuis ce matin qui disaient qu'il y avait plus de cendrier dans les voitures. C'est vrai, mais c'est à chacun
c'est
de...
Pour,
ça n'est pas une raison pour lancer des incendies.
D'incendie, mais même en dehors d'une période d'incendie, c'est juste dégueulasse, en fait, de jeter son mégot dans la nature.
Voilà. Donc, on prévoit sa petite boîte en métal, son petit cendrier portatif. Merci Sandrine, ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Vous avez de la fraîcheur quand même dans le Cantal là?
Nous, on est super bien.
Vous êtes bien dans le Cantal.
La nuit, on dort bien parce qu'il fait frais, donc on peut aérer les maisons. Il n'y a pas de souci, nous.
Il n'y a pas de souci. Merci Sandrine d'être passée par le 32-16. 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'Algérie éliminée face à la Suisse. Cette nuit, vous l'avez vécu sur RMC, défaite 2-0 des Fenech. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline.
Eric, notre fil rouge pendant cette Coupe du Monde. Alors déception évidemment des Algériens, on y revient. Et puis on va essayer de se projeter avec vous, les Bleus qui jouent demain leur place en quart. Ils affrontent le Paraguay, ce sera à 23h demain soir. Les Bleus en pleine confiance, vous nous le dites dans un instant. A tout de suite Eric.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC. On va évidemment revenir sur les Bleus qui jouent demain au Paraguay pour une place en quart.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Eric Dimeco, consultant RMC, ancien international tricolore. Avant de parler des Bleus, je voudrais quand même qu'on revienne sur le match de cette nuit. Ça s'est terminé il y a quelques minutes, Suisse-Algérie. On l'a vécu sur RMC, le match il s'est terminé avec l'Algérie qui s'est inclinée, donc 2-0 contre la Suisse. Déception pour les Algériens.
Oui, semi-déception parce que quand on regarde un petit peu le parcours des Algériens depuis le début de la compétition, ça a été assez chaotique, hein, avec beaucoup de buts encaissés. Je crois qu'ils encaissent 9 buts en 4 matchs à l'arrivée, en sortant de cette compétition. Donc ça fait un peu trop pour avoir de l'espoir. Et puis surtout des problèmes de gardien. Ils ont galéré donc et contre une Suisse qu'on voyait pas venir, mais qui a l'air solide, et donc ça, c'est logique.
C'est logique. Bon, allez, demain, 23h, 8e de finale, Paraguay-France. Pas de changement de composition. L'équipe, elle fonctionne comme ça, plus que fonctionne, elle l'impressionne, elle suscite toute notre admiration. Donc, voilà, on y va avec une certaine confiance.
Alors, pas que notre admiration,
oui,
l'admiration...
C'est du monde entier.
Voilà, voilà. Ça m'inquiète même tellement que tout le monde en fait des tonnes sur notre attaque, d'abord, parce qu'elle est extraordinaire, c'est vrai, mais sur la solidité aussi de notre équipe. C'est vrai que Didier a trouvé l'équilibre qu'il cherchait. Il avait un problème côté gauche, avec un problème défenseur, voire d'attaquant, et on a l'impression qu'il a trouvé sa doublette avec Digne Barcola. Et puis surtout, ce quatuor offensif qui... fait beaucoup parler, donc on est en train déjà, alors qu'on a, on n'a même pas que joué les quarts de finale, on est en train de comparer notre attaque avec ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire du football, les Pays-Bas de 74, le Brésil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, enfin voilà, on a fait des tonnes. Moi j'aime bien ce genre de débat, mais ce serait bien de le faire à la fin quand on l'aura gagné la Coupe du Monde, non?
Quand on l'aura gagné, vous voyez que vous vous projetez, vous dites pas si, vous dites quand, mais Eric, c'est
aussi, suis fautif, je l'avoue.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant, c'est une attaque de feu. Et je me disais honnêtement, quel immense bonheur quand même pour notre pays de pouvoir avoir cette équipe. Bon, alors on a pu traverser des moments moroses, mais alors là, vraiment, ça nous porte tous. Bon, les gros qualifiés, l'Espagne, le Portugal. Bon, finalement, tout le monde est au rendez-vous là, hein.
Oui, je m'amusais à regarder en préparant ma petite intervention, à part l'Allemagne.
Votre petite intervention, votre grande intervention, Eric.
Oui, non, mais oui, mon intervention. en huitième de finale, à part l'Allemagne, qui a fini premier, les Pays-Bas aussi, mais les Pays-Bas contre le Maroc, c'est tellement serré que c'est pas une contre-performance. Tout le monde est là, sinon, quoi, voilà, il y a que les Allemands qui sont passés à la trappe. Voilà, tout le monde sera là. L'affiche des huitièmes, ce sera une jolie Portugal-Espagne, comme vous avez présenté déjà, Apolline. Celui-là on l'attend, c'est lundi soir je crois 21h, donc celui-là on l'attend avec impatience.
Ça va être un très très bon match.
Ouais. Et puis le Brésil-Norvège aussi qui m'intrigue et qui m'intéresse.
Voilà. Qui vous intéresse, on aura l'occasion d'en reparler puisque vous êtes notre fil rouge pendant toute cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Eric Dimeco, et je vous donne rendez-vous, on vous donne tous rendez-vous sur RMC, ce sera donc samedi soir 23h, France-Paraguay, demain soir donc en direct et en intégralité sur RMC bien sûr, 7h46. Et dans un instant, c'est le débat RMC, c'est vendredi. Voix de droite, voix de gauche. Voix de droite, Charles Consigny. Voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour à tous les deux. Édouard Philippe est-il en train de prendre l'ascendant sur son camp, la droite et le centre? Grand meeting dimanche. Chaque jour, il engrange de nouveaux soutiens. Et en face, il y a Bruno Retailleau, il y a David Lisnard, il y a Gabriel Attal. Est-ce qu'ils vont réussir chacun à continuer à exister? Est-ce que ça y est, il y a un vrai candidat pour la droite? Vous en débattez, vous n'êtes évidemment pas d'accord. Ça se passe sur RMC dans un instant, 7h47.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat du vendredi, mais d'abord le bonus. Mathieu, une nouvelle chanson de Céline Dion cette nuit.
Céline qui n'en finit plus de revenir sur le devant de la scène. Un nouvel inédit, le deuxième en moins de 3 mois.
Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne.
La chanteuse québécoise offre donc un deuxième titre inédit avant son grand retour sur scène à la rentrée à Paris. Un texte signé du chanteur Icar, chanson pop et refrain simple autour des mots « Bonjour, pardon, merci, je t'aime ». Alors selon les auteurs, le morceau s'inspire d'une pratique hawaïenne qui consiste à dire ces mots « pardon, merci, je t'aime » devant l'océan tous les matins. Message qui résonne avec son parcours récent, ses ennuis de santé. Et c'est donc la deuxième nouveauté de Céline Dion après le morceau « Dansons » publié le 17 avril, titre signé Jean-Jacques Goldman. Deux chansons qu'on entendra à la Défense Arena en septembre.
RMC, Apolline Matin, le débat.
7h49 sur RMC et RMC Story. Et ça y est, ça commence à sentir un petit peu les présidentielles. Non seulement on a les dates, mais on commence à avoir des candidats qui se dessinent. C'est l'heure du grand débat du vendredi entre la voix de droite, Charles Consigny. Bonjour Charles. Et la Bonjour. Voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour Cécile. Bonjour. Quel candidat pour la droite? Édouard Philippe tient son premier grand meeting dimanche. Laurent Wauquiez commence à lui tendre la main, a demandé à Bruno Retailleau de se retirer. J'ai envie de dire priorité à la droite. Charles Consigny, est-ce que ça y est, il y a un candidat pour la droite?
En tout cas, Édouard Philippe comme candidat de la droite et du centre, c'est quelque chose qui vient de loin et qu'il a lui-même construit depuis longtemps. Il a fait bien attention de ne jamais s'encarter chez Renaissance, à l'époque chez En Marche. Il a fait bien attention de toujours rappeler qu'il était de droite, etc. Et je suis convaincu qu'il est au fond de lui tout à fait de la droite la plus raide, celle de la bourgeoisie rouennaise dont il vient. Donc il y a pas de problème là-dessus. Moi, je constate simplement que ça reste à mes yeux le centre en réalité. J'ai un peu écouté Édouard Philippe ces dernières semaines. Sa grande obsession, c'est de financer notre modèle social. Ça peut presque plaire à Cécile Duflot, je pense. Moi, je crois qu'il faut réformer notre modèle social. Donc, je pense qu'il est quand même sur une ligne, sur une fréquence qui ne le place pas complètement à droite.
Cécile Duflot, ça vous plaît, ça, l'idée de financer notre modèle social? Il est finalement de gauche, Édouard Philippe?
Pour Charles, on est très facilement de gauche, hein. Mais je crois que le sujet, c'est quand même j'ai un sentiment de décalage total entre la nature de la campagne présidentielle ou de la pré-campagne présidentielle et la réalité des enjeux. On voit bien que vous parliez de la manière dont il se présente. Il aurait pu dire les mêmes choses il y a 5 ans, il y a 10 ans. Peut-être même il y a 20 ans, en fait, il y a une espèce de redite. Il met ses chaussons dans les trucs habituels des candidats. On est face à une crise climatique majeure, avec des conséquences, y compris en termes de finances publiques, en termes d'adaptation qui sont considérables, et aussi dans un pays où les inégalités sont plus élevées que jamais. On bat des records de taux de pauvreté. Donc, redire les mêmes choses qu'il y a 15 ans, 20 ans, ça paraît un peu...
Pour vous, c'est une campagne à l'ancienne?
De toute façon, là, il y a beaucoup de campagnes à l'ancienne. Il y a beaucoup de campagnes à l'ancienne avec le ralliement de Machin qui n'aime pas Bidule, avec tout un foin.
Machin qui n'aime pas Bidule, c'est, je décrypte, c'est Laurent Wauquiez qui n'aime pas Bruno Retailleau.
Je crois que si jamais c'est Laurent Wauquiez qui était candidat, c'est Bruno Retailleau qui soutiendrait Édouard Philippe. Enfin, la figure de style, elle est hyper classique, mais je trouve qu'il y a un grand décalage entre la réalité du pays et la manière dont se font les campagnes présidentielles.
Alors, il reste malgré tout à droite au moment où l'on se parle. Bruno Retailleau, David Lisnard, bon, Gabriel Attal, je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche, mais enfin, c'est quand même à peu près une bonne partie de l'électorat qui se croise. Qu'est-ce que vous en pensez de Charles? Est-ce qu'il faut qu'il débranche, comme le demande Laurent Wauquiez?
Non, je pense il faut pas être trop cruel avec les uns et les autres, mais... je pense que David Lisnard, il a le mérite de faire exister ses idées. Néanmoins, je crains qu'il ne parvienne pas à aller au-delà de là où il est actuellement et qu'indéfiniment, il n'arrive pas à rentrer dans la peau d'un candidat qui parle aux Français de manière plus large que simplement ceux qui sont, comme moi, obsédés par la fiscalité, la réglementation et la mauvaise gestion des deniers publics. Tout ça, c'est un thème qui est très intéressant, qui est très utile, qui, à mon avis, est un des thèmes majeurs. Mais enfin, il faut s'exprimer plus largement. Quant à Bruno Retailleau, il est sur une ligne radicale qui peut peut-être l'aider à exister. Moi, je pense qu'en réalité, elle n'est pas suffisamment radicale. Cécile Duflot a raison de dire que pour moi, on est facilement de gauche. Quand François Fillon proposait la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, Bruno Retailleau n'en propose plus que 250 000. Moi, je pense qu'il faut supprimer 1 million de postes de fonctionnaires pour arriver au même niveau que l'Allemagne. L'Allemagne a 1 million de fonctionnaires en moins que la France, alors qu'elle a 15 millions d'habitants en plus. Donc, les uns et les autres, voilà, ils avancent sur ce chemin un peu escarpé de la présidentielle, mais je trouve qu'ils le font sans aller au bout de leurs atouts.
Charles, vous dites l'important c'est aussi la fiscalité. Vous avez entendu ce matin Gabriel Attal, il prévoit de ramener le déficit public à 0% en 2037, c'est réaliste?
Gabriel Attal est celui qui a expérimenté la semaine de 4 jours dans la fonction publique. Donc moi, je ne peux pas lui faire confiance pour faire remarcher l'État et pour réduire les dépenses publiques et le déficit public. Je pense pas que ce soit très sérieux. Je pense pas qu'il y croit lui-même. Si on veut vraiment réduire le déficit public en France, il y a une méthode qui est simple. Et là, pour le coup, Édouard Philippe est plutôt sur cette ligne. Il faut travailler plus. Parce que si vous travaillez plus, vous générez plus de cotisations, plus d'activités, vous enrichissez le pays et vous pouvez un peu baisser le déficit public. Et il faut par ailleurs couper à la tronçonneuse dans les dépenses. Je ne crois pas que Gabriel Attal propose vraiment de couper à la tronçonneuse dans les dépenses. Il faut faire la retraite à 70 ans. Il faut faire ce genre de mesures qui, en réalité, sont des mesures de bon sens.
Ça fait rire Cécile Duflot, Cécile.
Mais bien sûr, évidemment. Mais c'est pourtant les seules mesures qui permettraient de remettre ce pays, de faire redémarrer ce pays et de sauver ce pays.
Cécile.
Non, ce qui me fait rire, c'est d'imaginer Charles en caleçon à distance, en train de ressortir les mêmes histoires de que dit la droite, c'est-à-dire ah bah oui, faut moins de fonctionnaires, ah bah oui, faut travailler jusqu'à 80 ans, ah bah oui.
Il est 70. On va vous rendre cet hommage quand même, Charles. Je sais pas si vous êtes en caleçon devant votre ordinateur,
mais les gens, je pense aux gens qui nous écoutent, aux gens qui travaillent dehors, aux gens qui sont sur des toits, ils vont être couvreurs jusqu'à 70 ans.
Mais c'est évidemment pas pour toute la population. Mais tout le monde le sait.
Est-ce que je pourrais juste finir sur les fonctionnaires? Parce que celui qui a fait ça, qui en a fait un espèce de grand projet, en fait, il y a une sorte de fétichisme inverse des fonctionnaires. La question, c'est pas plus ou moins de fonctionnaires, c'est qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est utile au pays? Est-ce que c'est utile à notre société? Est-ce qu'on en a besoin? C'est ça la question. Parce que les mêmes qui vous expliquent qu'il faut supprimer des fonctionnaires vont couiner et expliquer que c'est scandaleux qu'il faille 6 mois, 1 an pour passer un permis de conduire. La question, c'est quelle est la mission qu'ils remplissent? Moi, je vais vous dire une chose assez cocasse. On a supprimé, par exemple, des postes de gens qui surveillaient des sites publics, des policiers ou des douaniers. On les a remplacés par des prestataires de services. Mais en fait, la marge que font les sociétés de prestations de services pour payer les gens qui gardent ces lieux publics, ben, finalement, ça coûte plus cher. Il y a quand même des choses qui ont été montrées sur le fait que avoir des fonctionnaires, ça coûte pas forcément plus cher. Donc, cette espèce de folie qui consiste à dire moins 1 million de fonctionnaires, moins 2 millions de fonctionnaires, mais pourquoi, où, qui, quand, comment? Enfin, je trouve que vraiment, ça manque, c'est tellement simple. Et ça, c'est peut-être un des problèmes de cette pré-campagne présidentielle. C'est que le niveau d'argument, il est quand même ras du sol.
On n'est pas encore complètement dedans, on le sent, c'est sûr.
Ah oui, non, mais oui, mais en fait, ils peuvent avoir un petit peu, je sais pas, un peu de sens de l'État aussi, parce que on peut avoir de vraies discussions. Et comment on fait en sorte que notre pays, notre modèle social, c'est-à-dire un modèle basé sur la liberté, l'égalité, la fraternité, résiste aux enjeux, notamment climatiques, considérables auxquels la France va devoir faire face? C'est ça l'enjeu de 2027.
Merci,
il n'y en a pas un deuxième.
Merci, Duflo. Merci, Charles Consigny. Le débat du vendredi entre la droite et la gauche sur RMC. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant, il y aura le journal de 8h à la une, ce chiffre dévoilé à l'instant par la ministre de la Santé, 2025 morts supplémentaires dues à la canicule, 2025 morts. Il y aura aussi la météo, Géraldine nous dira justement que les fortes chaleurs reviennent, et puis après le journal, il y aura l'économie avec Pierre Rondeau face aux canicules, l'agriculture française qui souffre, il nous le dira dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.